Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est l'invité d'Europe Matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et question d'actualité, Gérald Darmanin, malgré le fait qu'Emmanuel Macron ait assez peu parlé de la sécurité intérieure, il a tout de même annoncé une nouvelle LOPSI, une loi de programmation de la sécurité intérieure pour le premier trimestre 2022. Sans en donner les détails, il parle tout de même d'une loi ayant pour but de renforcer les moyens pour les forces de l'ordre et d'alléger les contraintes bureaucratiques. Deux questions pour vous, Gérald Darmanin. D'abord, étiez-vous au courant de ce texte? Et qu'a en tête précisément le président de la République à propos de cette nouvelle LOPSI?
D'abord, le président de la République l'avait déjà annoncé. Il l'avait annoncé lors du discours à Roubaix, qui a conclu le Beauvau de la sécurité, d'une loi de programmation. C'est quoi une loi de programmation pour vos auditeurs? C'est pas une loi de circonstances, comme on les vote parfois et qui sont parfois nécessaires. C'est sur 5 ou 6 ans, donner les moyens budgétaires pour transformer un ministère. On a fait ça au début du quinquennat sur les militaires, la loi de programmation militaire. Parce que les investissements sont tels qu'il faut beaucoup de moyens et qu'il faut du temps. Deuxièmement, moi je remercie le président de la République parce que ça servira à la nation quoi qu'il arrive. Nous avons des sujets au ministère de l'Intérieur qui sont très importants et qui ne dépendent pas des circonstances. Voilà. Par exemple, le cyber est un problème absolument essentiel. Aujourd'hui, on peut imaginer déjà que 40% des affaires qui vous concernent, comme qui concernent les entreprises, c'est en lien avec le cyber, les crypto-monnaies, la façon dont les gens utilisent le dark web, la façon dont les gens font des rançongiciels. Ça peut empêcher, pire qu'un incendie, une entreprise de fonctionner, une administration de fonctionner. Nous avons déjà des équipements, mais on doit faire un niveau d'investissement tel qu'il nous faut plusieurs années devant nous, et ça demande des moyens techniques tels que ça ne peut pas se décider en quelques semaines ou quelques mois. Donc c'est ce qu'il m'a demandé de préparer. Il y a beaucoup d'autres options évidemment que le cyber, mais c'est ce genre de niveau d'ambition. Et donc cette loi sera présentée, il l'a dit, au Conseil des ministres en début d'année prochaine. Je vais le voir en fin d'année.
Pensez-vous avoir le temps de faire aboutir le texte avant la fin du quinquennat?
Elle est déjà en très grande partie rédigée, parce que depuis 6 mois, c'est le travail en chambre que m'avait demandé le président de la République de faire.
Mathieu Bock-Côté.
Monsieur le ministre, vous avez nommé il y a quelques instants, sans le nommer, Éric Zemmour, en parlant des candidats qui sont obsédés par la question de l'immigration.
C'est plutôt vous qui allez obsédé d'Éric Zemmour, mais ça c'est chacun ses
obsessions. De qui parlez-vous alors? De Yannick Jadot
en général? Non, je regarde les candidats LR, j'ai écouté leurs débats, j'étais très étonné. On est comme très très loin, me semble-t-il, de ce que j'avais moi entendu lorsque j'étais membre du RPR d'ailleurs, et de l'UMP.
Alors, vous avez néanmoins nommé, sans le nommer, vous me permettrez de le dire, le candidat Zemmour. Ils sont nombreux à refuser de débattre avec lui. Ils le disent, nous refusons de débattre avec lui, ce qui n'est pas votre cas. En 2019, dans Valeurs Actuelles, vous avez eu un grand débat sur plusieurs pages avec lui, et où il y avait une ligne de rupture fondamentalement entre vous et lui, de manière un peu inattendue, si vous lui reprochiez son marxisme. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la ligne de rupture fondamentale entre vous et Zemmour, ça demeure une forme de marxisme que vous lui reprochiez à l'époque à plusieurs reprises?
Bon, d'abord, moi, je ne fais pas de politique pour attaquer les gens. Donc je respecte tout le monde, je respecte Éric Zemmour, je respecte tous ceux qui se présentent au suffrage universel. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup aimé, je vais vous dire, le débat des candidats LR, cette obsession contre le président de la République, cette attaque personnelle contre le président de la République. Je trouve que ça cache quelque chose. Quand je me suis présenté dans mes élections municipales à Tourcoing, si je dis simplement le maire que je veux remplacer est quelqu'un de pas bien, les électeurs m'auraient dit, bon, c'est bien sympathique, mais moi j'ai besoin de mon logement, de mes enfants, comment ça se passe dans votre commune. Donc je pense qu'il ne faut pas attaquer les personnes, mais ce qu'ils pensent.
Ça cache quoi? C'est important ce que vous dites, parce qu'hier à ce micro, Xavier Bertrand nous a dit que le président ne sentait pas, le président de la République ne sentait pas le pays.
Ouais, je regrette ces attaques personnelles. Ça, elles ne grandissent pas les personnes qui les disent, et je préfère qu'on parle des idées. La France, c'est un pays politique, et donc je n'attaque pas personnellement Éric Zemmour, pour qui j'ai du respect personnel. J'ai pu apprécier ses livres. Moi, L'homme qui ne s'aimait pas, Jacques Chirac, a longtemps été un livre d'étudiants que j'ai lu et relu et stabiloté. Donc c'est pas le sujet personnel. Donc moi je débattrai avec tous ceux qui veulent débattre, s'ils veulent débattre avec moi bien évidemment. Pour revenir sur le fond, en revanche, moi je trouve qu'il y a un sujet. D'abord c'est que M. Zemmour effectivement il a une vision très marxiste des choses, mais il le revendique lui-même hein, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs intellectuellement intéressant, c'est peut-être un des derniers marxistes. Il est d'ailleurs libertaire, Éric Zemmour, parce que lui il est par exemple pour la légalisation du cannabis. C'est une ligne de fracture extrêmement forte. Enfin, je sais pas si les gens qui sont conservateurs, réactionnaires, qui ont besoin d'autorité, que je respecte profondément, savent que M. Zemmour, il est pour la légalisation du cannabis. Bon. Bah, nous, on n'est pas pour.
Il a évolué, hein. Il était contre et après réflexion.
On peut tous évoluer. Il y a beaucoup de gens qui évoluent en vieillissant. On devient libertaire parfois en vieillissant.
Il a expliqué.
Monsieur Zemmour vient il baisse les bras. Voilà. Donc, en fait, il ne croit pas à la politique, monsieur Zemmour, la vérité.
Il pense qu'il y a que la lutte contre le trafic de drogue est un échec que la légalisation peut être finalement une bonne solution.
Il ne fait pas la même réflexion sur l'immigration. Il ne dit pas la lutte contre l'immigration est un échec et du coup, j'accepte que les frontières soient ouvertes. Donc, il a la sélection dans ses choix. Donc, d'abord, c'est une rupture très forte pour répondre totalement à votre question. Puis, troisièmement, moi, j'ai un problème avec Éric Zemmour, comme avec les candidats LR, je ne sais pas si M. Zemmour est candidat, c'est qu'ils ne s'en prennent jamais aux entreprises, par exemple. Les étrangers en situation irrégulière qui sont sur le sol national, bien sûr que on peut dire inacceptable qu'ils soient là. Quand monsieur le candidat LR X ou Y dit « moi je ne régulariserai pas », bon très bien, c'est une belle affaire. Il y a des entreprises qui les font venir. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des entreprises qui ont des très grandes marques, hein, qui embauchent des gens et qui savent très bien qu'ils sont irréguliers, utilisent leur force de travail, pour le coup, et leur disent, bah voilà, cher ami, vous êtes venu pour être exploité, pour faire vite, et dès que quelque chose se passe, parce qu'ils demandent des papiers, ils leur font un peu du chantage, je mets des guillemets, à la régularisation des très grandes entreprises françaises. Avec Elisabeth Borne, à la demande du président de la République, nous disons à ces entreprises que c'est inacceptable. Et nous devons tout faire pour empêcher, évidemment par les entreprises, de faire venir de la manœuvre étrangère. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui est facile dans le discours de dire c'est que de la faute des étrangers. C'est aussi de la faute de certains capitalistes de pouvoir utiliser la misère humaine. Et dans les candidats de droite, je mets M. Zemmour comme candidat de droite, il n'y a pas beaucoup de dénonciation des chefs d'entreprise. Peut-être parce que c'est le moment où ils demandent beaucoup de dons à certaines personnes. Mais ça, c'est tout à fait inacceptable. Et je veux dire ici ce matin que la CGT, pourtant je ne suis pas tous les jours quelqu'un qui défend la CGT, mais fait un travail extrêmement remarquable lorsqu'ils essayent d'accompagner des personnes très faibles qui sont exploités parce qu'irréguliers sur le territoire national, exploités par des capitalistes. Et ça, par exemple, M. Zemmour, il n'en parle jamais.
Alors, vous avez le souci de la précision des termes, avec raison. Vous êtes candidat de droite pour parler de Zemmour. Est-ce que vous utiliseriez le terme extrême droite ou pour vous, il fait partie de la grande famille de droite sans que vous ayez besoin de l'extrême droitiser ?
Bah, je dirais qu'il a une droite très conservatrice. De temps en temps, je la trouve très différente de celle que j'ai pu ressentir ou que je ressens encore, parce que moi, je ne suis pas essentialiste et j'ai l'impression que M. Zemmour, il est passé du séguinisme, mais comme d'autres candidats LR, hein, du séguinisme à l'essentialisme. Voilà. Moi, j'ai jamais pensé, personnellement, qu'un prénom, une religion, une couleur de peau avait un intérêt quelconque avec la carte d'identité française. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre ce débat. Je n'arrive pas à le comprendre. J'ai lu un bouquin ce week-end de chez sur Chérif Mechri, le premier préfet musulman, c'est Boris Cyrulnik qui l'a écrit. Vous voyez, donc un bouquin, je crois, assez psychologique. Et vous savez que pendant que M. Bousquet collaborait avec les nazis, dont d'ailleurs M. Cyrulnik dit qu'il n'est pas antisémite, pour montrer qu'il n'est pas, il a l'air d'être assez objectif dans son livre, M. Mechri, lui, il a refusé de donner les listes des juifs alors qu'il était préfet sous la collaboration. Donc on peut encore se poser des questions psychologiques, pourquoi il est resté, c'est encore une autre question. Il a refusé de donner des actes de courage, il a refusé de donner la liste des juifs de son département, il refusait de serrer la main aux généraux allemands, il a été soutenir les résistants à Oradour-sur-Glane. Ben voilà, Chérif Mechri, il s'appelle Chérif Mechri, il était musulman, et il m'a paru beaucoup plus français que M. Bousquet, qui avait un prénom français, qui était catholique. Voilà.
Malgré cela, cette démonstration, on vous a entendu ce matin, et vous allez provoquer des cris d'orfraie, M. le ministre, puisque vous dites que vous appréciez même respecter Éric Zemmour, qui a été fascisé, nazifié par certains, y compris dans votre propre camp, en tout cas dans la majorité. Vous vous dites que pour l'attaquer au sens politique du terme, il faut aller sur le fond, sur les idées.
C'est ça,
la noblesse de la politique.
Mais c'est jamais un bon signe dans une démocratie d'attaquer à demi-dème les personnes. Moi, je trouve que c'est jamais bien. Et deuxièmement, le combat politique est assez dur pour ne pas en rajouter personnellement. Et troisième sujet, moi je suis de ceux qui disent que les commentateurs qui commentent et qui donnent des leçons aux politiques, c'est très sympathique, mais ils ne font pas le travail difficile des politiques. M. Zemmour, il a l'air de vouloir prendre ses responsabilités. Je le combats, je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'il est dangereux pour le pays, je pense que ce qu'il dit réveille des choses dangereuses pour le pays, mais moi je le combats comme un adversaire respectable. Et comme j'ai débattu avec Mme Le Pen, comme j'ai débattu avec M. Mélenchon, et moi je débat avec toute personne que la République n'a pas interdit de pouvoir poursuivre ses idées. Quand c'est très 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 inacceptable, la République, elle est forte. Moi, tous les jours, je propose au président de la République d'interdire des associations, des groupuscules. Mais à partir du moment où on ne l'a pas fait, c'est normal de débattre. Les Français diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette élite qui refuse de parler avec les autres ? Je prends M. Zemmour au sérieux. Comme je souhaite qu'on prenne M. Macron au sérieux. Les attaques personnelles sur M. Macron. Parce que qu'est-ce qu'il a subi depuis 4 ans et demi, le président de la République, hein ? Sur sa vie personnelle, sur son couple, sur sa femme.
Mais comment vous l'expliquez ? Ça fait deux fois que vous dites et vous tirez, semble-t-il, la sonnette d'alarme sur ce sujet.
Une démocratie qui se respecte, ce n'est pas une démocratie des caniveaux absolus. Il y a déjà les réseaux sociaux pour ça, ça suffit. Si en plus les responsables politiques pouvaient éviter d'attaquer personnellement, je pense qu'on aura une belle campagne. 5 mois, ça va être long. Hein. Si on est au niveau du débat des LR, le niveau de haine personnelle du débat des LR, ça va être long. Voilà.
Gérald Darmanin, une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'immigration. l'immigration en disant que c'est l'immigré clandestin que parfois des entreprises embauchent de manière irrégulière. L'immigration, ça pourrait être aussi Elon Musk, sud-africain, naturalisé américain, fondateur de Tesla entre autres. Ça pourrait être Sundar Pichai, le patron de Google. Ça pourrait être le PDG de Pfizer ou Ugur Sahin, fondateur de BioNTech. Le Conseil d'analyse économique rattaché à Matignon vient précisément de publier une note sur l'immigration économique. Et cette note nous dit que la France est enfermée dans un cercle vicieux d'une immigration de droit, regroupement familial et humanitaire, l'asile aux réfugiés, que cette immigration en France est peu diversifiée, avec une part écrasante d'origine maghrébine, qu'elle est peu qualifiée. Et le CAE plaide pour une immigration de personnes qualifiées via, par exemple, un système de permis à points, à la manière de ce que fait le Canada ou l'Australie. Est-ce que vous faites vôtre les recommandations de cette note qui porte en elle cette idée d'un changement de perception de l'immigration en France ?
Alors moi je n'ai pas lu cette note puisqu'elle est sortie hier, donc je ne vais pas commenter quelque chose que je n'ai pas lu, mais ce qui est certain d'abord c'est que l'immigration en France n'est pas ce qu'on en dit. D'abord, je vous rappelle qu'on a beaucoup moins d'étrangers en situation irrégulière. On en a beaucoup, à peu près 600 000.
Là, il parle des réguliers.
Non, mais je parle des irréguliers, puisque c'est quand même l'obsession, je crois, d'une partie des personnes. Que les autres. 1 200 000 en Angleterre, à peu près 800 000 en Allemagne. Nous avons par ailleurs, nous, la possibilité d'avoir, je crois, une migration qui ressemble à ce qu'était la France hier et avant-hier. Vous dites qu'il y a beaucoup de migration maghrébine. Bah oui, mais c'est une histoire aussi. Ils parlent français, une culture française dans les familles, ils ont de la famille souvent en France, et donc nous avons toujours l'immigration de notre histoire. Troisièmement, j'entends qu'il faut revenir sur un certain nombre de traités pour pouvoir éviter cette immigration non de qualité. Ça, c'est ce que disent certains candidats. Ça ne changera pas la géographie. L'Angleterre sera toujours près de Calais. Bon. Quatrièmement, sélectionner son immigration, ça peut être un intérêt, bien évidemment, pour avoir plus de médecins. Mais je constate aussi qu'il y a plein d'entreprises françaises qui ne fonctionneraient pas légalement, sans l'immigration. Je pense aux agriculteurs. Voilà, c'est un fait économique en France que dans le sud de la France, par exemple, vous faites venir des Marocains.
Oui, mais
en
ce sont des travailleurs détachés la plupart du temps aussi, ou des clandestins.
Mais souvent, ils peuvent rester sur le territoire national, ça leur arrive, ils peuvent rencontrer l'amour, ils peuvent faire des enfants, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, vous avez dit, on peut sélectionner des personnes selon leur qualité. Bon, je comprends ça, et bien sûr, nous sommes nous-mêmes très en demande de ça. C'est pour ça qu'on a augmenté très fortement le nombre de visas étudiants. Voilà, donc c'est ce qu'essaye de faire la France aussi. Mais l'immigration ne peut pas être qu'une immigration d'intérêt pour un pays. C'est une vision aussi très économiste des choses, de ce que vous évoquez. Nous avons aussi, et c'est la vocation de la France, me semble-t-il, et de tous les pays occidentaux, démocratiques, européens, qui portent des valeurs, d'accueillir des personnes qui n'ont pas d'intérêt économique, mais qui ont un intérêt moral. Lorsqu'on accueille les Afghans qui ont aidé la France, ou les femmes qui refusent d'être sous le joug des talibans, évidemment que ce n'est pas une question économique.
En tout cas, ce qui est certain,
c'est que nous pouvons parler d'immigration sans hystérie. Oui. C'est intéressant.
C'est ce que vous faites
c'est une
ce
grande
matin.
Question. On essaye.
Vous avez parlé des visas. En 2019, Emmanuel Macron, venons-en au fait, s'est engagé à exécuter 100% des OQTF, obligation de quitter le territoire, avant la fin de son quinquennat. Selon le Sénat, on en est à 12%. Vous avez tout tenté. Vraiment, jusqu'à récemment, la division de la délivrance des visas par deux. Selon nos informations à Europe 1, il n'y a aucun impact sur l'Algérie et le Maroc. Est-ce que vous le confirmez ?
Bon, d'abord, c'était décidé cet été, donc je veux bien qu'on tire des conclusions
au bout
de deux mois.
La mesure est assez forte, elle aurait pu avoir un effet.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si je prends l'exemple, alors je vous ai pris les chiffres, parce que je savais que vous iriez sur ce point. Si je prends l'exemple de ce qui se décidait déjà avant cet été, donc le président de la République avait déjà pris cette forme de décision. Si je prends l'exemple de l'Algérie, il y a eu 23 341 en 8 mois, les 8 premiers mois de cette année, visa accepté et 10 828 refusés, 31% de refus. Et si je prends depuis la décision de septembre-octobre, si je prends l'Algérie, 12 609 visas acceptés, 11 867, moitié-moitié, taux de refus. Et parmi les visas acceptés, c'est notamment les visas économiques, des personnes qui ont un lien économique, des chefs d'entreprise, investisseurs ou des cadres qui viennent sur le territoire national. Et c'est à peu près pareil pour le Maroc et un petit peu moins pour la Tunisie.
Mais est-ce que ça a un impact sur les OQTF ? C'est ça la question.
Alors,
la question
n'est
pas
posez,
de punir les gens pour qu'ils ne viennent pas en France.
La deuxième question que vous posez, c'est est-ce qu'on arrive à expulser les personnes ? Donc on n'est pas à 12% de personnes qui repartent, on est à peu près à 25%. Vous me direz, ce n'est qu'un quart, vous avez raison. Je constate que là où on dit ces personnes sont fichées, radicalisées, islamistes, où ils sont délinquants, on arrive à les expulser avec d'énormes taux. Si je prends l'exemple des personnes, le président de la République m'a demandé d'établir l'année dernière une liste de 1100 délinquants étrangers qu'on devait expulser. Et bien aujourd'hui, je vous le dis en
pourquoi
direct sur Europe 1,
pourquoi 1100 ?
C'était les 1100 plus dangereux et qui sortaient de prison. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont en prison. Voilà. Et on ne peut pas les expulser quand ils sont en prison, ils doivent terminer leur peine. Ben, sur les 1100, il y en a 899 qui ont déjà été expulsés. Les 1100, l'objectif c'était 31 décembre. Donc on y arrive lorsqu'on arrive à discuter avec des pays de personne à personne. Là où on a du mal à le faire, c'est quand des pays remettent en cause le fait qu'une personne est certes de telle nationalité, mais a un enfant en France. Voilà, il y a des lectures. C'est une question complexe, hein. C'est ça qui est difficile. Parce que derrière tout ça, il y a évidemment des familles et des personnes. Une personne qui n'a pas été condamnée pour des violences, qui par ailleurs est certes irrégulière sur le territoire national, mais qui a mis du temps à avoir ses papiers. On donne l'asile, grosso modo, en un an et demi. Au bout d'un an et demi, vous ne savez pas, madame, si vous avez un asile. C'est notre faute aussi, c'est pas de la faute que de l'étranger. En un an et demi, vous avez eu le temps de faire un enfant. Par exemple, voilà, ou de contracter un mariage, ou d'avoir un PACS. Alors, est-ce que c'est sincère ou pas sincère, c'est une autre question. C'est à nous de le prouver. Et une fois que vous avez cet enfant, le gouvernement algérien nous dit par exemple, vous n'avez pas le droit de l'expulser, même s'il est algérien, parce qu'il a un enfant en France et il a un lien familial. C'est cette difficulté-là qu'on essaye de régler. Elle n'est pas facile. Elle ne se règle pas d'un coup de baguette magique.
Monsieur le ministre, qui dit immigration dit assimilation. Qui dit naturalisation ne dit pas toujours assimilation, hélas. Est-ce qu'un des problèmes principaux en France aujourd'hui, au-delà de l'immigration illégale, l'immigration irrégulière, c'est l'existence de plus en plus d'enclaves ethniques où on trouve des gens qui sont tout à fait français sur le plan du droit, mais qui n'ont pas été culturellement assimilés à la France? Et si le problème existe, comment le réparer? Je ne reste pas sur 3 ou 4 générations, mais avec un horizon politique raisonnable.
Alors, qui dit immigration ne dit pas forcément assimilation. Moi, je trouve que ce n'est pas un mauvais mot, l'assimilation. Ma famille en est issue. Mais on peut très bien être étranger dans un pays, respecter les règles et pas vouloir devenir étranger, de national. Hein, vos enfants qui partent à Shanghai aux États-Unis, ils ont peut-être envie de vivre 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans aux États-Unis, ils n'ont pas envie de devenir américains.
Mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, je crois.
Y a des gens qui ont envie de venir en France, qui n'ont pas envie de devenir français. On les respecte. S'ils respectent les règles de la République, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des gens qui ne veulent pas devenir français. S'ils sont légalement sur le territoire national, qui respectent nos règles, je ne demande pas aux Malaisiens, aux Algériens, aux Tunisiens devenir absolument
mais
français.
Mais ceux qui sont naturalisés, mais ceux qui ne sont pas assimilés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème?
Donc il y a ceux qui deviennent français. Voilà, ça c'est autre chose. Alors ceux qui deviennent français, par nature, vous avez raison. Ils doivent épouser les codes, la langue notamment, je pense que c'est ce qui est le plus important, pour devenir français. Donc là, nous avons renforcé, et c'est vraiment un point extrêmement important. Même M. Stefanini l'a dit dans le livre qu'il a fait pour Mme Pécresse, c'est dire que le gouvernement d'Édouard Philippe et du président de la République a celui qui a le plus renforcé l'apprentissage. On a mis des moyens extraordinaires de français, et aujourd'hui il n'y a pas d'étrangers qui deviennent français s'ils ne maîtrisent pas le français. Alors après, vous posez une autre question, qui est le regroupement des personnes dans un même endroit. Alors vous appelez ça l'ethnisation, vous êtes un peu essentialiste, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr.
Ah, d'aucune manière.
Si, bien sûr.
Je parle de l'effet de masse, simplement.
Non, mais le fait, ethnisation, c'est par ethnie, monsieur. La langue française a un intérêt, donc moi je ne pars pas du principe que c'est par ethnie. Mais mettre des gens qui sont issus de l'immigration dans un même endroit, concentrés dans un même endroit, effectivement, c'est un problème. Mais chacun le sait. Et c'est une question d'urbanisme, c'est une question aussi d'égoïsme personnel. Moi, j'ai été maire d'une commune qu'on qualifie de difficile. J'ai fait porter un projet en rue, le plus gros au nord de Paris, grâce à l'argent que nous a donné l'État, sous le gouvernement Hollande et sous le gouvernement Macron. C'est un quartier de 9000 habitants. 9000 habitants, 80%, je le fais très très vite, de personnes monoparentales ou en dessous du seuil de pauvreté, 97% de logements sociaux. On casse en ce moment les barres. Tout le monde est formidable. Tous les commentaires diraient c'est formidable, on arrête de concentrer la misère dans un même endroit. Oui. Mais alors, je vais vous expliquer, vous, qu'à côté de chez vous, je vais construire des logements sociaux. Et vous allez accepter que les gens du quartier de la Bourgogne de Tourcoing, qui n'a pas très bonne réputation, c'est le moins qu'on puisse dire, famille monoparentale, très très souvent musulmans, très très souvent issus d'immigration, qui ont envie de s'en sortir. Moi, je connais un gamin qui a fait Polytechnique sortant de ce quartier. C'est pas la règle du genre, vous avez raison, mais des gamins qui ont envie de s'en sortir, je vais le mettre à côté de chez vous. Ben, moi, j'ai vu aussi des gens un peu bourgeois, qui ont des bonnes pensées, qui votent peut-être M. Zemmour, qui me disent « Ah non, monsieur le maire, on a acheté une maison avec ma femme, on ne veut pas logement social à côté de chez nous. » Donc il faut aussi que la décision politique, ce n'est pas que des commentaires, accepter les conséquences de nos actes. Vous avez tout à fait raison, la République française a une responsabilité, d'abord dans la non-maîtrise de son immigration, dans la non-exigence de leur assimilation, mais aussi dans le non-accueil de ces personnes pour leur donner les chances. Et donc acceptons l'idée aussi, quand on a des belles idées généreuses, très francisée comme celle d'Éric Zemmour ou des candidats LR, de construire des logements sociaux près des quartiers bourgeois, ce sera intéressant.
Merci.
Et je
Gérald
constate
Darmanin.
Que c'est souvent pas les conséquences des actes qu'on a voulu, et il me semble que depuis longtemps, un grand penseur français a expliqué que c'était la plus terrible défaite de la pensée que de ne pas vouloir les conséquences de ses actes.
Merci Gérald Darmanin, merci d'avoir répondu aux questions d'Europe Matin. Bonne journée à vous, le
merci
ministre
à vous.
De
merci
l'Intérieur.
Merci Gérald Darmanin, bonne journée.